Autre radio, autre culture, émission également diffusée sur 6e Paris Jazz. Aujourd'hui, nous abordons le thème de l'archéologie, mais une archéologie bien particulière, puisque c'est de l'archéologie médiévale et aussi musicologie médiévale, avec la participation de Lionel Dieu.
Bonjour.
Qui est archéologue et musicologue.
Oui, on dit archéomusicologue aussi.
Voilà. De Christian Brassy, qui est professeur d'histoire géo, qui s'occupe d'organologie.
Oui, c'est-à-dire de la reconstitution et de l'étude des instruments de musique.
Et également de Frédéric Billet, qui est professeur de musicologie à Paris 4, Paris Sorbonne 4.
Bonjour. Voilà.
Bonjour Frédéric. Et nous avons notre candidat de service, qui est Jacques de Pierreux. Bonjour Jacques.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, nous parlons donc de cette archéologie médiévale, de cette musicologie médiévale. Qu'est-ce qui vous a attiré tous les trois dans cette orientation temporelle, dirais-je ?
Bon, moi, à l'origine, je suis musicien. Et j'ai fait assez peu d'études, mais j'ai été tout de suite attiré par l'archéologie. Comme j'étais musicien, j'ai eu le droit de citer plutôt dans la musique que sur le reste. Et je me suis intéressé très rapidement au début à la musique romaine. On avait plein de références sur les tableaux, sur les sculptures romaines. Et c'est une passion pour l'histoire et pour l'archéologie qui finalement m'a fait aller dans un domaine qui était celui que je connaissais, qui était celui de la musique et de la musicologie. Donc j'ai recoupé les deux passions et puis finalement je me suis spécialisé là-dedans.
Frédéric ?
Alors moi, j'étais donc aussi musicien, comme Lionel. Jouais du basson, j'adorais la musique classique et la musique romantique. Et en faisant mes études à l'université, un peu par hasard, j'ai suivi un séminaire de musique médiévale, qui était alors dirigé par Edith Weber. Et j'ai été complètement séduit par cette autre approche de la musique, notamment parce qu'il y avait très très peu d'informations et qu'il y avait tout à reconstruire, aider les interprètes, etc. Et avec d'autres étudiants, puisqu'il n'y avait pas beaucoup de disques, il y a à peu près 30 ans, on a décidé de jouer des instruments anciens et de jouer les répertoires qu'on découvrait et qu'on pouvait noter. Donc voilà, c'est devenu une véritable passion pour cette période.
Christian.
Alors moi, il y a deux choses. D'une part, c'est un intérêt pour le Moyen-Âge comme période. Moi, j'ai fait des études d'histoire, donc je suis intéressé assez particulièrement au Moyen-Âge. Et également, je suis musicien de formation, moi c'était du hautbois. Et de là, j'ai découvert effectivement des instruments qu'on commençait à reconstruire il y a une trentaine d'années, qui avaient des noms bizarres, hein, Kromer, des instruments comme ça. Et c'est vrai que les sonorités de ces instruments-là, tout de suite, m'ont intrigué. Et à un moment où j'avais plein d'amis qui commençaient à s'intéresser aux sonorités électroniques, moi je m'étais rendu compte qu'en fait il y avait beaucoup d'instruments de musique qui pouvaient reproduire des sons assez particuliers qui m'ont intrigué. Et depuis, eh bien, l'intérêt n'est jamais retombé en fait.
Alors évidemment, pour travailler sur une telle période, on s'arrête d'abord sur les sources, on travaille sur les sources. Alors quelles sont les sources que l'on a actuellement ? Est-ce qu'on a encore des surprises dans la recherche archivistique ?
Ah oui, alors ça, des surprises, on en a en permanence. En fait, il faut savoir qu'on travaille sur un répertoire essentiellement oral, que les sources écrites ont un statut un peu particulier qui dépend de la volonté des commanditaires. Donc la base, en fait, pour simplifier, on peut dire qu'à partir du 9e siècle, on a eu besoin de noter la musique, alors qu'on notait déjà les textes depuis longtemps, de noter la musique, même s'il y a eu des notations auparavant, à des fins, justement, pour contrarier un peu la liberté de la tradition orale qui était extrêmement localisée et régionale. Donc chacun avait son répertoire, que ce soit le répertoire aquitain, que ce soit le répertoire mozarabe. Et les Carolingiens ont souhaité unifier ce répertoire, donc imposer finalement un seul type de tradition. Et pour pouvoir l'imposer, ils ont pris l'habitude de noter des neumes, donc des petits signes, qu'on ne peut interpréter que si on connaît cette musique finalement par cœur. Donc tout le travail des paléographes, de la paléographie musicale actuellement, c'est d'essayer de remonter dans le temps à partir de notations plus précises, de remonter dans le temps pour essayer de comprendre que ce qu'étaient ces signes qu'on ne peut interpréter que quand on connaissait cette musique. C'est un peu comme quelqu'un qui lirait aujourd'hui le brouillon d'une secrétaire qui prend des notes et qui n'aurait pas la traduction tapée à la machine, par exemple. Je pense à la sténo. Donc une fois qu'on a à peu près compris les systèmes et qu'on peut comparer, on peut tenter de lire cette notation musicale très particulière qu'on appelle l'énume. Ça, c'est pour le 9e siècle. Plus on avance dans le temps et plus, avec les traités, les théoriciens, plus on va préciser la notation musicale. Et j'ai envie de dire que ça ne s'est jamais arrêté, puisqu'aujourd'hui, on est là à noter les timbres et le temps à la seconde près, au millième de seconde, en fonction des machines. Donc on peut dire que dans cette histoire, depuis le 9e siècle, on n'a pas arrêté d'être dans la précision. Mais pour la musique médiévale qui nous intéresse pour le Moyen-Âge, il y a encore très très peu de choses inscrites sur ces sources. Par exemple, on ne sait pas avec quel instrument, quel type de voix, le timbre de voix, les intensités, enfin tout ce que les musiciens connaissent bien, ni même le tempo. Donc ça, c'est aussi un grand intérêt pour moi et puis les collègues, c'est de faire des propositions à partir de recherches et surtout de comparer. Donc par exemple, l'iconographie musicale est très importante pour nous, à la fois pour les gestes, les modes de jeu, les associations de timbres, etc., dans quelles circonstances on jouait, avec quel type d'instrument, parce que sur les répertoires qui nous sont transmis par ces manuscrits, il n'y a aucune autre indication.
Est-ce que les neumes du 9e siècle ont un rapport, dans les signes, ont un rapport avec ces fameux textes araméens où il y avait effectivement des signes également pour psalmodier les textes?
Alors, on n'en a pas la preuve, mais en fait, moi, je suis tenté, évidemment, par cette hypothèse. Il nous manque quand même un fil conducteur. Il y a d'ailleurs d'autres notations musicales, même dans le monde grec, sur le trésor des Athéniens à Delphes, par exemple. On a des musicologues qui ont tenté des enregistrements aussi. Donc je pense qu'il y a toujours eu quand même un souci de travailler sur les intonations des textes, etc., comme on voit évidemment dans ces cantilations. Mais là, on développe quand même un système mélodique plus avancé.
C'est ce qu'on appelle la chironomie, c'est-à-dire on pense qu'il gravait le mouvement de la main.
Oui, bien sûr.
Y a-t-il actuellement des découvertes qui se font au sein même de centres d'archives? Est-ce qu'on a parfois des surprises?
Oui, alors en fait, on a identifié dans des répertoires internationaux très célèbres un grand nombre de manuscrits très importants pour ce qu'on appelle le chant dit grégorien. Mais il reste beaucoup de manuscrits sur ces fameuses traditions dont je parlais tout à l'heure, traditions régionales, parce qu'en fait, et c'est un peu rassurant sur la condition humaine, même si les Carolingiens ont essayé d'imposer une seule tradition, qu'on appelle aujourd'hui le chant grégorien, il y a beaucoup de régions qui ont résisté. Si bien qu'à Milan, par exemple, il y a encore une paroisse qui chante toujours dans sa tradition le répertoire ambrosien. Et on trouve, là, j'ai une collègue qui s'appelle Katarina Livjanic, qui a retrouvé dans des monastères de Croatie, un manuscrit du 14e qui n'avait jamais été retrouvé et qu'elle a pu interpréter. Donc on a toujours finalement des surprises. Et puis alors encore une petite chose, on retrouve aussi ces notations musicales à des endroits tout à fait improbables. Par exemple, des manuscrits qui servent de couverture et qui ont servi de couverture à d'autres documents. Donc on va retrouver dans une bibliothèque, dans un registre de comptabilité, des pages de chants grégoriens parce qu'on s'est servi exclusivement de la peau du manuscrit pour faire des renforcements de couverture, etc. Donc on trouve toujours des documents intéressants.
Alors pour retranscrire dans ces premiers documents qui vous apparaissent au 9e siècle, enfin ces premiers signes qui vous apparaissent au 9e siècle et par rapport à ce qui se passe après, est-ce que vous avez un système comme Champollion de la pierre de Rosette où vous transcrivez d'un passage à un autre?
Exactement. Donc en fait, on est bien en face donc d'un texte pour lequel on n'avait absolument pas prévu de mettre une notation musicale. Donc c'est sorte que ce que disait Lionel, des petites virgules qu'on met au-dessus, on va dans les marges parce qu'on n'a pas de place pour mettre la vocalise. Enfin vous voyez, c'est un système absolument illisible pour nous. Et il y a un manuscrit fondamental pour les médiévistes, c'est le manuscrit de Montpellier, parce que dans ce manuscrit, vous avez trois types de notations superposées, dont un système alphabétique. C'est-à-dire que là, pour la première fois, on avait mis des lettres majuscules qui représentent des noms de notes. Donc on avait, pour une pièce identifiée, des noms de notes, et ça permettait donc à ce moment-là de mieux comprendre un peu les intervalles que représentaient ces signes, parce que ces signes, en fait, ils ont quand même des mouvements de hauteur hein, pour nous. Donc à partir de là, on avait une première, un premier élément de réponse pour un certain type de signes pour faire cette paléographie. Et puis alors, il y a un deuxième système que les moines de Solesmes, d'ailleurs, ont mis en évidence avec un travail de bénédictin extraordinaire, c'est qu'ils ont repris dans tous les manuscrits les pièces, une pièce par exemple, 50 versions de la même pièce, puis on la retrouve dans cette notation-là, un siècle plus tard avec une notation sur ligne, un siècle plus tard une notation encore plus précise, avec finalement très peu de variantes, parce que c'était quand même des communautés qui avaient une tradition orale extrêmement fiable. Donc finalement, on peut supposer, hein, on l'a fait pour la pierre de Rosette, que la notation sur ligne du XIIIe siècle, elle représente à peu près ce qu'on pouvait chanter au IXe siècle avec une notation plus difficile à lire. Et certains vont encore plus loin, c'est qu'ils arrivent à trouver, mais ça dans le langage musical, à dater des pièces qui ont été notées au IXe siècle, mais qui ont été créées au Ve. Là, parce qu'il y a des, par exemple, il y a des intervalles qui n'existaient pas. Donc, c'est comme pour les instruments de musique, hein, ce que disait Lionel aussi. Lionel.
Parce que l'Église n'aime pas la création. L'Église aurait souhaité très tôt qu'on chante toujours les mêmes chants.
Bah, c'est une espèce de tradition, tradition religieuse, en genre de mélopée, ou je ne sais plus comment on peut dire, mais ouais. C'est pareil chez les peuples juifs. Hein. Enfin, non, ils ont des espèces de mélopées comme ça qui récitent.
Mais l'artiste, même s'il est prêtre, ne peut pas résister à la création. Et c'est pour ça qu'on a eu d'abord sur l'Alléluia, où comme à la fin il y avait des longs mélismes hein, sur le A de l'Alléluia, il y en a un qui s'est dit mais tiens on va mettre des paroles dessus sur le A, et il a mis des paroles. Voilà, et c'est devenu l'eutrope. Et moi qui ai quand même un peu l'esprit déplacé, souvent j'imagine qu'il a peut-être mis des paroles qui n'étaient pas toujours religieuses. Et puis ensuite, ils ont inventé la polyphonie. Et puis on a quand même des textes où on nous explique que tout ça, c'est mauvais pour la croyance. Je veux dire, plus la musique est belle, c'est parfois mauvais pour la concentration par rapport à la croyance.
Oui, tout à fait. Donc, la polyphonie, c'est, je dis toujours à mes étudiants, c'est exactement comme un reliquaire. En fait, vous avez la petite phalange de Sainte-Colette, qui est ce qu'on appelle le cantus firmus, qui est la mélodie d'origine du IXe siècle, qui est à une partie de ténor. Et on décore par d'autres voix au-dessus, mais on respecte toujours la mélodie d'origine comme une relique sonore, en fait. Hein, et c'est exactement le même système. On peut même pas dire que c'est inventé, parce que moi, je pense que la polyphonie, elle a toujours existé. Mais en tout cas, c'est au moment où c'est accepté par les puisqu'on ne peut pas ajouter de nouvelles pièces. Donc, comme le dit Lionel, on ajoute à la fin, en conclusion, on décore, on augmente, on fait de la polyphonie, et c'est comme ça que l'imagination créatrice peut continuer à se développer, alors que l'Église essaye de faire respecter une tradition très stricte.
Par rapport à ce qui se passe actuellement, par exemple dans l'Église catholique, il y avait beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui disent que les chants catholiques tels qu'ils sont actuellement, qui se veulent très modernes, très entraînants et autres, défendent en fait cette fameuse concentration pour prier. Et qu'ils sont très très gênés par ces nouvelles musiques, alors qu'ils auraient préféré qu'on ait des chants polyphoniques qui leur permettent de se concentrer et de prier Dieu. Alors c'est amusant de vous entendre dire ce genre de choses.
Il y en a aussi qui vont dans des stages à Fontevraud, par exemple, j'ai entendu dire, parce que le chant grégorien de Fontevraud est plus près de l'origine que celui de Solesmes. Alors nous, ça nous fait rire, parce que le chant d'origine grégorien, finalement, on ne le connaît pas.
Oui. De toute façon, l'Église, par rapport à l'art, a toujours, c'est toujours en dents de scie. Hein. Même avec les peintres ou les architectes, il y a toujours un moment donné où l'Église va solliciter les artistes, comme les musiciens, et un moment donné où elle va prendre peur, parce que les fidèles deviennent plus admiratifs et entrent plus en phase avec la beauté artistique que le message. Et c'est là qu'on a des conciles qui mettent un point d'arrêt en disant, je pense au concile de Trente, par exemple, qui va dire, faut arrêter avec cette polyphonie où on ne comprend plus le texte. Mais c'est une polyphonie extraordinaire.
Lionel est archéologue et il a travaillé ou il s'est intéressé. Là, je ne sais pas, pour Charavine, qu'est-ce qui s'est passé avec Charavine?
Oh bah, déjà, j'habite à côté.
Oui.
Il y avait quelqu'un qui avait travaillé avant moi, c'était Catherine Homo-Lechner. Et puis, elle était partie. Et moi, je travaillais sur la musique dans la sculpture romane. J'ai fait l'inventaire de la musique dans la sculpture romane. Et puis, je suis allé voir Éric Verdel à Charavine. Et puis, je lui ai dit que moi, j'avais des choses sur les chapiteaux et que je voulais voir ce qu'ils avaient trouvé en fouille. Et puis, ils m'ont pris dans leur équipe de recherche. Et depuis 1996, je m'occupe de ce qui a été trouvé en fouille, hein, c'est-à-dire des instruments en bois, Parce que Charavine, bon, il faut quand même expliquer ce que c'est. Oui. C'est un site qui existe de 980 à 1038. Vers 980, un évêque, celui de Vienne ou de Grenoble, ça on ne peut pas savoir, fait une tête de pont pour installer ses hommes, sa population, pour prendre place autour d'un lac, le lac de Paladru. Et lorsque vous installez des paysans à cette époque, ben pour les défendre, il vous faut une armée. Donc on fait des chevaliers paysans. Et c'est le fameux film d'Anna René, hein, Les Chevaliers de l'An 1000.
Qui connaissait la chanson.
Ouais, qui connaissait la chanson et dans lequel on voit toujours les cris de Michel Collardel. Et ces paysans s'installent, construisent des maisons, et pour construire ces maisons, ils vont couper les forêts autour et ils vont défricher pour semer des céréales. Mais comme c'est un lac d'infiltration, ça crée une catastrophe écologique. Le lac monte et ils sont obligés de déménager. Ils emmènent ailleurs leur maison. On ne trouve plus que les fondations des maisons, là. Mais ils laissent quand même 10 000 objets sous l'eau, qu'on fouille depuis 30 ans. Et comme c'est conservé sous l'eau, c'est un des rares endroits où on trouve des instruments en bois. Alors, Charavine, c'est un site très intéressant parce que c'est le passage à la féodalité. Et on pense qu'en France, il y a eu beaucoup d'endroits, on en a trouvé ailleurs aussi, où on s'installe au bord de l'eau pour construire des habitats. Alors, Charavine-Coltière, celui qu'on fouille, il y a une maison seigneuriale, il y a une forge, c'est là qu'on construisait sans doute les épées du Viennois, il y a les bestiaux, on a retrouvé une cloche qui est une cloche assez semblable à ce qu'on trouve encore aujourd'hui dans les Pyrénées pour les animaux. Mais c'est sans doute pas le site principal, puisqu'en face, il y avait une église, le site d'Ars, avec, je crois, une nécropole. Et il y a encore un autre site, là, lui, qui n'a jamais été fouillé. Le site avec l'église ne sera jamais fouillé parce qu'il s'est écroulé, il est à plus de 25 mètres. Alors, pour fouiller, il faut des plongeurs qui vont chercher des seaux, qu'on trie après dans des tamis. À Charavine, ça va parce que ce n'est pas très profond. Dès qu'on fouillerait à 25 mètres, ça nécessiterait des paliers de décompression et ça poserait trop de problèmes d'intendance et tout ça.
Mais pourtant, en sous-marin, on fouille aussi à 25 ou 30 ou 40 mètres. Donc, ouais. Ça pourrait se faire, finalement.
Oui, ça serait une autre connaissance, et là, il faudrait que tu viennes avec nous. Alors ça, on retrouve des instruments, on retrouve surtout des... Là, on a retrouvé ce qu'on a identifié après comme étant des muses. Mais alors, comment on les a identifiés? Dans l'archéomusicologie, l'archéologie a une place très peu importante. La source principale au Moyen-Âge, c'est l'iconographie. L'iconographie que l'on trouve sur les chapiteaux sculptés des églises romanes, sur les vitraux, dans les enluminures des manuscrits, et ensuite, à l'époque gothique, là c'est plus Christian qui a pris la suite, moi j'ai travaillé surtout sur l'époque romane, les vitraux, les environnements en bois, Frédéric Lestal...
Des choses plus surprenantes, on trouve des vêtements liturgiques avec des broderies par exemple, on trouve de la joaillerie également avec des petits personnages qui jouent des instruments. Et finalement, on se rend compte que toutes ces sources, en les recroisant, eh bien on peut tirer un certain nombre d'indications, effectivement, qui après débouchent sur éventuellement une reconstitution d'instruments. Et aussi, la mise en relation avec les textes aussi, en ce cas-là, bien sûr, après, est importante également, parce qu'un instrument, s'il apparaît, il y a un nom qui apparaît également en même temps. Et justement, le site de Charavine a permis de mettre en valeur un instrument qui était unique à ce moment-là. Je crois que c'est le premier exemplaire qu'on a retrouvé. Et un des travaux qu'a fait Lionel, justement, c'était justement de mettre ça en relation avec la sculpture, avec les textes également. Et on arrivait à mettre au point un instrument qu'on appelle la muse, qu'on pourrait peut-être écouter d'ailleurs maintenant.
Alors, la muse, à Charaville, on a deux sortes. On a une muse simple et une muse double. Alors ça, c'est un recoupement que Pierre-Alexis Cabiran a aussi fait avec l'ethnologie. Parce que lui connaissait ces instruments que les ethnomusicologues appellent des clarinettes. Alors c'est un instrument en bois, pas très grand, avec un petit trou dedans. Et puis la place pour mettre ce qu'on appelle une hanche simple. Une hanche simple, c'est un tube dans lequel on a fait une entaille. Contrairement à l'ange double, c'est deux palettes rapprochées ou une paille écrasée. Je me méfie, là, il y a Christian sur les anges, il s'y connaît beaucoup mieux que moi.
Il va nous en parler tout à l'heure.
Voilà. Donc cet instrument-là, le mot qui restait, le nom d'instrument qui restait pour cette époque, c'était les muses. Et ce qui est marrant et ce qui fait quand même plaisir, quand on fait la recherche, on a publié ça en 2004. Et aujourd'hui, tout le monde appelle ça des muses, même dans le monde, dans le folk. Et même, grand honneur, dans un disque en anglais, ils ont traduit ça par musaine, Alors qu'ils avaient le terme qui s'appelle pipe, hein, parce que pipe, c'était au départ...
Alors, muse,
c'était
il vient d'où, alors, ce titre?
Alors, muse, c'est un terme de musarrer, hein, s'amuser. Oui. Ça vient de ça. Et c'est un terme générique. Et ensuite, avec cet instrument-là, en croisant l'iconographie, on s'est rendu compte, quand on l'a mis sur une poche, on a un terme qui apparaît à partir de 1220, c'est muse au sac. Et muse au sac, ça a donné bagpipe, sac-pipa, muchosa. C'est un terme qu'on a dans toute l'Europe qui veut dire la même chose. Sac-pipa, on a encore en Suède un instrument qui s'appelle comme ça. Et jusqu'en, on va dire, jusqu'en 1300, on a cet instrument, cette cornemuse sur laquelle, cette muse au sac, sur laquelle on rajoute un bourdon. Cornemuse, c'est un terme qui apparaît encore plus tard, vraiment chez Machaut, parce que cornemuse, à l'origine, c'est juste la muse à laquelle on a mis une corne, soit pour servir de pavillon, soit pour servir d'embouchure, pour mettre autour des lèvres, faire une capsule. Et ça, ça s'appelle corna musa ou musa corna. Et c'est vraiment, on a dans l'iconographie cet instrument qu'on peut recouper avec cette dénomination, quoi. C'est presque un rébus, musa corna. Seulement après qu'on met un sac, mais ça s'appelle muse au sac. Bagpipe, ça y pipa, quoi, selon les pays. Et pipe, par exemple. Pipe, c'est un terme d'origine française. Et c'est la muse à cornes qu'on a, surtout à Pouzauges. Et c'est qu'après qu'on a appelé ça une pipe, quand on a mis du tabac dedans, mais à l'origine, c'est un instrument. C'était un instrument de musique.
Frédéric, on retrouve souvent des... Souvent, ça m'étonnerait, mais est-ce qu'on retrouve des descriptions des instruments de musique dans les textes?
Alors, je pense que mes collègues peuvent aussi en parler, mais... On peut dire qu'à l'époque, enfin au Moyen-Âge, en tout cas, il n'y a pas de dictionnaire vraiment, de dictionnaire. On commence à avoir des éléments intéressants à partir du XVe siècle. Hein, je crois que Christian là,
les premiers traités qui apparaissent à la fin du XVe siècle, effectivement, et c'est surtout en fait après coup, au XVIe siècle, qu'on a des traités vraiment qui décrivent les instruments et parlent de la façon, y compris de les fabriquer parfois. Mais avant, c'est un point d'interrogation, et c'est un peu aussi la limite de l'iconographie, c'est qu'on voit un instrument, par exemple, je ne sais pas, une vielle à archer, ou un instrument avant, mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Comment l'instrument avant, il est percé, par exemple? Ça, l'iconographie, bien sûr, n'apporte rien. Et le nom, non plus, les traités, finalement, enfin, les textes du Moyen-Âge, donnent finalement aucune indication sur la façon dont l'instrument est fabriqué.
On a quelques tracés, quand même.
Sont tardifs, oui, il y a quelques tracés au partir du 15e siècle, mais c'est vrai que, bien souvent, il y a quand même des très gros points d'interrogation qui restent.
Alors, sur les noms des instruments, si, où il faut se méfier, c'est par exemple, parfois les enluminures ou les chapiteaux, il y a un nom qui est marqué dessus à côté. On appelle ça une glose. Le sculpteur, il a fait l'instrument et il a marqué à côté le nom. Et par exemple, on a marqué tuba à côté d'un corps en terre. On a marqué cornu. Mais pourquoi il a fait ça? Pas du tout, parce que dans la rue, on l'appelle tuba. Tuba, c'est le nom de la trompette romaine. Le sculpteur, lui, il a lu dans la Bible, le commanditaire lui dit « tu vas me faire... » David et ses musiciens comme ils sont dans la Bible. Alors Saint Jérôme, lui, à l'époque romaine, il a tuba, il a cornu, il a cithara, il a des instruments romains. À l'époque romane, le sculpteur, lui, il fait ce qu'il y a dans la Bible, et pour montrer qu'il a bien mis la tuba à côté du corps en céramique qui nous sert à Charavine à sonner les heures du travail ou la chasse, il écrit tuba, dire « j'ai bien mis tuba ». Mais c'est pas du tout comme ça qu'on l'appelle au Moyen-Âge. Là, il ne faut pas tomber dans l'erreur. Le sculpteur, lui, a représenté la Bible et les instruments qu'il connaît dans son environnement. Mais la tuba, ce n'est pas ça, c'est la trompette droite romaine. Et fidula, cithara, cithara, c'est un terme qui n'existe plus au Moyen-Âge. C'est un terme latin qui a peut-être donné d'autres noms, mais la vielle, ça ne peut pas exister chez les Romains, puisqu'on n'en a pas. On n'a pas d'archer. L'archer n'arrive que vers l'an 1000 chez nous.
Et alors, la terminologie est très instable, donc ça change de région, d'une région à l'autre, en fait. Hein. Et donc, dans les traités dont on parlait, même il y a des traités plus anciens avec des accords, par exemple, on accorde la vielle, on a déjà des choses comme ça, mais on n'a jamais d'image à côté. Donc, en fait, on parle d'instruments, les poètes parlent d'instruments, Machaut donne des listes d'instruments, etc. On ne sait jamais exactement à quoi ils ressemblent. Il y a quand même un beau manuscrit à la bibliothèque de Troyes, qui date de, je crois, 1444, où on a le psaume 150, donc ça rejoint ce que dit Lionel, toujours la Bible, avec les cymbales, etc. Et puis là, il y a quelqu'un qui a dessiné et peint des instruments. Donc là aussi, ça peut commencer à être intéressant. Mais il y a toujours cette ambiguïté entre le nom des instruments cités par la Bible, par le latin, puis traduit, puis l'instrument dans sa réalité, comme tu dis, de la vie quotidienne. Donc là, évidemment, on est vraiment dans une période jusqu'à la fin du Moyen-Âge où donner une définition des instruments ou quand on voit une image, lui donner un nom, c'est un exercice périlleux pour le chercheur.
Alors qu'est-ce qu'a apporté Charavine ? Parce que Lionel, tu dis que vous avez trouvé pas mal d'instruments. Quels sont les types d'instruments que vous avez pu trouver ? Et qu'est-ce que cela a apporté justement dans la recherche française de la musicologie ?
Ce qu'apporte déjà l'archéologie réelle, c'est d'abord qu'elle est très rare, puisque c'est surtout l'iconographie au Moyen-Âge, et on n'a pas conservé d'instruments du Moyen-Âge, très peu, hein, vraiment quelques-uns. Mais là, pour une fois, on a des vrais instruments. Alors lorsqu'on les voit sur les chapiteaux, c'est difficile de savoir, par exemple, quelle perce on a, c'est-à-dire le trou longitudinal, l'espacement des trous, la taille de l'instrument. Ces instruments-là, ils étaient joués par des animaux musiciens. Par exemple, sur un chapiteau à Loches, on a les muses de Charavine, mais joués par un animal musicien. Donc la véritable taille est difficile à savoir. On a un chevalet, quand même. Peut-être c'est une vielle, mais ça me paraît un peu près, un peu tardif. Donc,
bon, mais pas situé, de toute façon, voilà. On n'a pas le chevalet, mais ça peut être un autre chevalet.
Ça peut être un luth. Voilà, ça peut être un luth. On a des flûtes en os. Alors, ce qui est intéressant sur les flûtes en os, c'est que c'est exactement les flûtes qu'on a à la préhistoire. De tout temps, on a fait des flûtes en os, des flûtes de vautour, par exemple. Ça va bien, c'est facile à reconnaître, c'est triangulaire.
C'est assez long surtout, et puis ça voilà. Permet d'avoir un instrument déjà de certaine longueur.
Voilà. Oui. Et puis, chaque fois on en retrouve, il y a quelques années on a trouvé un frestel. Le frestel, c'est la flûte de pan médiévale. Et il y en a deux sortes, il y en a une assez grande, et puis la petite, qui est exactement la même que environ 10 par 10, quoi, 10 cm par 10 cm, la même qu'on avait à Alésia.
Et qu'on a retrouvé jusqu'aux années 1930, 1940.
Quel type de tonalité ce genre d'instrument ?
On ne sait pas, mais ils s'accordent, de toute façon, on s'accorde plutôt diatonique, hein, c'est-à-dire comme si on chantait do ré mi fa sol la, voilà. Mais alors, ce qui est intéressant à Charavine, c'est que on a trouvé un frestel une année, trois ans plus tard, on a trouvé un autre. Et le deuxième, on l'a trouvé, il était cassé, mais il était tout décoré, il n'y avait que des avant-trous de percée, et lorsque on a percé le deuxième trou, il est parti en travers. Donc l'instrument a été jeté. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a été retrouvé dans l'atelier de charpenterie. Et là, on a une information. Le berger, on va dire, qui fabrique son frestel, il le découpe lui-même dans une planche. Il le décore. Il fait les avant-trous où il les veut, mais il les emmène chez le spécialiste qui a lui une tarière. Alors on n'a pas une petite tarière pour faire les frestels, mais on en a des très grosses pour faire les poutres des maisons. À Charavine, ça, on en a trouvé plein. Donc, c'est le spécialiste qui fait le geste technique dans cette démarche-là. Et ça, au Moyen-Âge, il faut quand même s'imaginer que la dextérité de ces gens. Je veux dire, le Moyen-Âge, ce n'est pas du tout des sous-gens. Je veux dire, il y a une dextérité technique. Quand on est obligé de faire les... Nous, ce qu'on essaie de faire dans notre démarche, c'est de fabriquer les instruments avec les techniques d'époque. On voit Olivier Ferraud, par exemple, qui fabrique une guitare. Moi, je l'ai vu faire. Il détoure les bords à la hache. Et ensuite, il creuse l'intérieur avec une herminette, qui est une pioche à bois, comme on fait dans la marine. De toute façon, c'est une des références sur la technologie de tout temps. C'est la technologie navale. Mais en essayant d'avoir... retrouver le geste... de l'homme du Moyen-Âge, avec les outils de l'homme du Moyen-Âge, on essaie après d'avoir l'archéologie du son, parce que finalement, on a l'instrument sur les chapiteaux, on le fabrique. Si on respecte la démarche, on n'a pas une idée préconçue du son. Parce que ce qui s'est passé au 19e, quand les gens ont commencé, ils fabriquaient des vielles, c'est-à-dire la vielle à archer, c'est comme un violon. Et ils avaient un son de violon.
Ouais, ils se remontaient à Robustan, en fait.
Voilà.
On est parti de l'instrument actuel, de la lutherie moderne, de la lutherie du 19e siècle, et on a regardé l'image, et on a essayé de reproduire ce qu'on voyait sur la sculpture, sur le chapiteau, sur le vitrail. On a essayé de le restituer avec la technique que connaissait le luthier de violon. Or, on s'est rendu compte, justement, qu'en allant voir les outils qu'il y avait à l'époque, également en repérant certains détails, par exemple, on a certains sites où on trouve des sculptures vraiment très, très, très précises, et on voit que le côté de l'instrument, par exemple, a été creusé, ce qu'on appelle en forme tuilée. Alors c'est évident que si c'était un rebord de caisse comme sur un violon ou une guitare, ça ne pouvait pas tenir, ça casserait. Alors on s'est posé la question, comment fabriquer l'instrument ? Eh bien l'instrument était entièrement creusé en fait. Alors, on utilisait une technique, ce qu'on appelle le chantournage, c'est-à-dire vider l'intérieur de l'instrument, ce qui donnait une coque. Ensuite on mettait un fond. Et donc c'est un instrument qui va, d'un point de vue acoustique, fonctionner d'une manière complètement différente que, par exemple, sur un violon moderne. Sur le violon moderne, c'est le fond et la table au-dessus qui vont vibrer ensemble grâce à la transmission opérée par ce qu'on appelle une âme, une petite pièce de bois qui est à l'intérieur. L'instrument, la vielle médiévale, c'est avant tout une coque en bois, à tout un contour qui est solidaire, fait dans une seule pièce, monoxyle. Et c'est avant tout la coque de l'instrument qui va produire la résonance, qui est en fait complètement différente de celle de l'instrument moderne. Alors toute la démarche effectivement dans laquelle nous sommes, c'est essayer de retrouver pour d'autres instruments ensuite quelle était la technique utilisée. Et on se rend compte que d'un point de vue acoustique, on obtient des instruments qui ont un son vraiment caractéristique, très différent de l'instrument moderne.
Est-ce qu'ils sont fabriqués dans un bois particulier où ils prennent le bois local ?
Essentiellement, notre ami, par exemple, Olivier Ferron, lui, prend uniquement des bois qui poussent à proximité de chez lui, dans le sud de la France. En fait, ce sont avant tout des bois qui se travaillent facilement, qui se creusent facilement. Ce qu'on va utiliser, par exemple, je ne sais pas, c'est du noyer, des instruments comme ça, du tilleul. Le tilleul, qui est un peu le bois magique du Moyen-Âge, d'ailleurs, et qui est un des bois qui se creuse très facilement, qui se façonne très facilement, qui se sculpte très facilement, et dans lequel on tire des sonorités assez intéressantes. Il faut plus concevoir justement la fabrication de l'instrument comme une sculpture dans le bois que comme un assemblage, comme dans la lutherie moderne.
À Charaville, on a des instruments en chêne, par contre.
Ah.
Voilà. Les muses étaient en chêne.
Le sureau.
Le nord de sureau, voilà. Le sureau qui est un bois magique, puisqu'à l'intérieur, il y a une moelle.
Oui, tout à fait.
Et lorsqu'on enlève la moelle, ça fait ce qu'on appelle une perce naturelle. Et le grand spécialiste des flûtes, là, qui a travaillé beaucoup avec nous, c'est Jeff Barbe, qui fait que des instruments à perce naturelle. Il ne perce pas l'intérieur, il enlève seulement la moelle. Pierre-Alexis Cabiran fait beaucoup comme ça aussi pour les cornemuses. Et c'est des instruments à perce naturelle.
Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a, un passage décisif au XVe siècle par rapport à la musique instrumentale et ça, à son statut. Pendant le Moyen-Âge, donc, c'est la musique est une musique qui vient de la théorie musicale, qui est enseignée à l'université, et c'est surtout la musique vocale. Les instrumentistes ont un rôle très important dans la société, d'animation et d'avant tout ce qu'on connaît, et ils jouent aussi beaucoup la musique vocale, mais sans lire la musique, avec des instruments qu'ils construisent, comme le dit Christian, dans la masse, avec les essences d'arbres du coin, un peu comme on voit encore dans beaucoup de pays du monde où les gens, par exemple, on fait une darbouka en terre au Maroc parce que faire sécher la terre, c'est rien du tout. Et puis tendre des pots au soleil, ça va tout seul. Chez nous, c'est déjà beaucoup plus complexe. Alors on faisait vraiment des instruments qui, d'ailleurs, qu'on pouvait jeter facilement. C'est pour ça que certainement qu'on en retrouve facilement. Dès qu'ils étaient cassés, on les jetait, on en construisait d'autres. À partir du moment où la musique instrumentale commence à avoir un autre statut, elle est vue autrement par l'aristocratie, qu'elle s'émancipe et qu'on commence à mettre en valeur l'instrumentiste comme virtuose. En même temps, il y a une sorte de spéculation sur l'instrument de musique qui devient un cadeau qu'on offre aux virtuoses parce qu'on a envie de le garder, de le gâter, etc. Et on commence à mettre des décorations précieuses, la nacre, etc., etc. Et c'est à ce moment-là que vous voyez des instruments de musique qui vont entrer dans les musées. Pourquoi ? Parce que là, on ne les jette plus, on les répare, les familles les gardent, ça devient un trésor, etc. Donc avant le 15e, 16e siècle, on a quelques exemplaires, mais très peu, puisque ce n'était pas des objets, j'allais dire, d'échange ou des trésors. Tandis qu'après, on va avoir des instruments absolument extraordinaires et ça va perdurer, hein, jusqu'à la spéculation sur Stradivarius, etc. Enfin, on connaît bien les choses.
Oui, puis il y a des mécaniques très complexes qui apparaissent, surtout dès la fin 14e d'ailleurs, avec des instruments à clavier, avec des systèmes qui sont vraiment d'une fabrication très complexe. Et autant on peut penser qu'au 12e siècle, finalement, le musicien pouvait très bien fabriquer son instrument lui-même. Voilà. Au 14e, 15e siècle, il y a vraiment des fabricants hautement qualifiés. On a des textes qui vous décrivent, par exemple, qu'à Bruges, on a des perceurs d'instruments avant, qui étaient réputés en toute l'Europe. On a des bons de commande du roi d'Aragon ou du duc de Bourgogne qui dépensent des véritables petites fortunes pour acheter des instruments de haut niveau. Et puis, on se rend compte qu'il y a des instruments, effectivement, qui demandent une finition et des réglages très, très, très précis. Par exemple, peut-être qu'on pourrait écouter ce qu'on appelle une harpe à harpion. Une harpe à harpion, eh bien c'est une harpe, on connaît l'instrument, mais à la base des cordes, il y a des petits dispositifs qui viennent grésiller, on pourrait dire, sur la corde et qui produisent une sonorité très particulière qui, aujourd'hui, surprend. Les premiers surpris sont d'ailleurs les harpistes actuels quand ils entendent ça, parce que pour eux, ce n'est pas leur instrument.
Donc c'est la harpe à harpion.
Harpion,
ouais. Joué par François Joannel.
Alors j'aimerais bien qu'on revienne sur les instruments avant et sur les cors, Parce que je sais qu'il y a énormément de choses à dire.
Alors, les corps de 1000 à 1200, par exemple, les corps sont en terre. La plupart, c'est ce qu'on trouve enfouis. Des sacs de tessons, je veux dire, j'ai travaillé dessus, moi j'ai dépouillé des sacs de tessons qu'on avait trouvés, qu'on classait dans le temps avec la poterie. Et puis on trouve des embouchures. Alors, le corps, il existe aussi l'olifant. Olifant, ça veut dire éléphant. Mais ça, on ne le sonne pas une fois par an. Et même parfois, j'en ai vu, moi, dans les musées, qui n'étaient même pas débouchés. C'est des objets de trésor qu'on sortait avec les tapisseries les jours de grandes fêtes, quoi, de grandes représentations. Et puis, bien sûr, on fait sonner Roland dans un olifant, puis les anges d'ordre supérieur aussi, parce qu'on prête corriche. Mais Roland, il avait certainement soit une corne de vache, soit un corps en terre. Et ce qu'on a en fouille, surtout ce qu'on trouve en bas des remparts, ce sont des corps en céramique. On a, à Charaville, on a trouvé une règle qui nous donne la taille du pied. Donc, et c'est à peu près le pied, la paume romaine et tout ça. Un pied et demi, ça fait 38 cm, c'est la taille du corps. On en a d'autres dans d'autres châteaux qui font deux pieds. Et puis, ensuite, d'autres qui font 90 cm, c'est toujours un multiple environ de 38 qu'on a trouvé à Pimont. Et d'abord, c'est corps, ça vient de corne, donc c'est courbe, mais c'est fait en terre, avec une embouchure qui est soit droite, une embouchure directe, soit une cuvette, c'est-à-dire on met un petit cône dans lequel on va souffler et qui apparaît ça vers 1200. Et puis, on a des textes qui nous disent que lorsque il y aura un incendie, le seigneur de Pimont, dans le Jura, devra sonner du corps pour avertir les autres châteaux. Et ces instruments ne sont jamais joués par les jongleurs. C'est les sirènes de notre époque. Ça sonne le travail. On s'en sert à la chasse pour sonner les alalis. On a dans des textes, parce qu'on recoupe toujours les textes, on a des codes, comment on sonnait ça. Et c'est écrit comme du morse, avec plus long, plus court, tout ça. Et puis, pendant l'art roman, paradoxalement, enfin, étrangement, on n'a pas d'instrument métallique avant, alors qu'on en avait chez les Romains. Et on commence à en avoir à partir du XIIIe. Sans doute qu'ils sont venus d'Al-Nafir musulman, quoi, le Nafir d'Al-Andalus. Mmh. Et ensuite, Christian va nous parler de tout ce qui est après, parce que c'est lui qui a travaillé.
Sont arrivés, effectivement, sans doute, dans les croisades. Les premières traces qu'on a d'instruments de trompe en métal, ça serait dans le récit de la bataille de Bouvines, par exemple, donc au tout début du XIIIe, on aurait des sonneries faites aux arènes. Arènes, O-R-I-N-E. Qui serait donc un instrument métallique. C'est les premières traces qu'on trouverait. Et l'instrument, bon, est encore rudimentaire. On a retrouvé dans la Tamis, par exemple, il y a quelques années, un instrument du tout début du XIVe siècle. Bon, c'est vraiment, pour reprendre l'expression chez Lionel, c'est un pouette, quoi. C'est un instrument qui fait un ou deux sons, pas vraiment agréable à écouter, mais qui porte très loin. Et c'est seulement pendant le XVe siècle que vraiment l'instrument s'est affiné, qu'on a trouvé des systèmes pour faire vraiment des sonneries plus brillantes, pour obtenir des sonorités qui portent toujours aussi loin, mais avec des possibilités musicales qui vont s'affiner au fur et à mesure. À la fin de cette époque, du XVe siècle, on va rajouter des systèmes coulissants, pas encore une coulisse comme sur un trombone, mais un instrument quand même, un système qui va permettre de jouer des mélodies quand même plus détaillées. Et l'instrument, là, devient vraiment l'instrument de musique à part entière. On est passé de l'instrument de signal, de l'instrument de sonnerie, à un instrument qui vraiment est utilisé avec d'autres instruments, principalement pour les musiques de plein air, pour les musiques qui ont besoin de se faire entendre en extérieur, mais un instrument de musique vraiment à part entière.
Est-ce que ces instruments avancent et ils se regroupent ensemble pour jouer? Ils jouent tout seuls? Comment ça se passe? Est-ce qu'on a affaire aux premières fanfares?
C'est un petit peu ça, mais en nombre réduit encore. D'après ce qu'on peut savoir, d'après les pistes que peuvent donner les iconographies et les textes, les musiciens, en général, pendant toute la période médiévale, jouent en nombre réduit. Les témoignages que l'on voit dans l'iconographie, on voit un, deux, trois musiciens. On a un texte du XIIIe célèbre qui raconte justement que les musiciens se levèrent et ils jouèrent les uns après les autres. Encore vers 1450, au fameux banquier du Faisan, où le duc de Bourgogne a voulu faire le grand jeu pour attirer beaucoup de monde et les convaincre de partir en croisade. On a un récit assez détaillé qui raconte qu'il y a là plusieurs dizaines de musiciens qui jouent, mais ils jouent chacun les uns après les autres. Et les formations, finalement, on a l'impression, d'après ce qu'on peut percevoir de l'iconographie, que ce sont des formations limitées encore à 2, 3, éventuellement 4 musiciens. Et c'est sans doute vers le milieu de siècle qu'on commence à avoir des formations beaucoup plus étoffées, particulièrement pour les musiques de plein air, où là, effectivement, certains grands grands seigneurs, bon, vont commencer à avoir un ensemble constitué, ce qu'on appelle une bande ménétrière, qui peut avoir un nombre de musiciens plus important. Également, ce sont les villes qui, pour les cérémonies de prestige, vont regrouper les musiciens municipaux, commencer à avoir des ensembles municipaux qui vont jouer des musiques donc, lors des grandes cérémonies, lors des grandes festivités. Et là, effectivement, la musique, peu à peu, va avoir des formations musicales plus importantes.
Alors, celle qu'on peut écouter comporte donc une trompette avec un système coulissant, deux chalmis, qui sont les ancêtres du hautbois, et un tambour. Et c'est joué par Xavier Terrassa, Gilles Rapin,
Maxime Fiorani et Hervé Barreau.
Et Hervé Barreau.
Alors, je voulais revenir un petit peu au corps, parce que en tant qu'archéologue et ayant fait pas mal de fouilles urbaines, j'en ai jamais trouvé. Alors, est-ce que ça a un contexte géographique?
Castral, surtout. Contexte castral. D'accord. On les trouve souvent en bas des remparts, sans doute après avoir été cognés. Et si on écoutait bien, je pense qu'il nous reflèterait encore un gros mot qui a été prononcé au moment où on les a envoyés par terre.
Ces corps, ils sont en terre cuite, en terre... Il y a de la faïence ou pas?
C'est de la poterie. C'est fait par les potiers. À Mayac, j'ai travaillé sur les corps de Mayac, là où avait été trouvé un site du bronze final, mais qui a perduré jusqu'au Moyen-Âge. Et les corps étaient exactement dans la même céramique que les cruches à eau, que c'est fait par les potiers. Il n'y a pas un fabricant spécial de corps.
Il n'y a pas une terre particulière qui est utilisée pour cet instrument.
Non, non, non.
Sur la région, on reprend la tradition de la région. D'après notre ami Pierre Catanès, par exemple, qui a travaillé pas mal sur les sifflets en terre, eh bien, dans de la région, par exemple, d'Orléans, on trouverait de la pâte blanche plutôt fine. Eh bien, les corps, puis les sifflets étaient faits avec ça, alors que, par exemple, en Bourgogne, ce serait plutôt des poteries rouges, hein, cuites en réduction. C'est la technique usuelle qu'on retrouve dans la poterie régionale. C'est la même.
Alors, pour l'archéomusicologie, on se forme aussi auprès des archéologues. Et moi, quand je me suis retrouvé avec des corps de différentes époques, pour les dater, il a fallu que les céramologues m'expliquent comment on les datait, avec telle glaçure, avec telle chose. Parce que souvent, nous, on est parti sur une discipline qui était neuve. Donc, on ne pouvait pas nous apprendre ce qu'on a découvert depuis 15 ans, puisqu'il y a 15 ans, on ne savait quasiment rien sur tout ça. D'abord, on a trouvé, et après, on a cherché. Et ça, moi, un jour, j'ai lu un rapport de fouille. C'était sur la Osésie de Taillac. Mm-hmm. Et je me suis rendu compte que l'archéologue avait travaillé et donnait des animaux. C'était plein d'animaux de la Laponie. Je me suis dit, bah, tiens, elle connaissait ça. Mais après, je me suis dit, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Elle s'est retrouvée avec un sac d'os qui correspondait absolument pas avec ce qu'elle connaissait. Et il a fallu qu'elle cherche quels étaient ces animaux. Elle s'est rendue compte que c'était des lemmings, que c'était du renne et que c'était tout ça, et que c'était des os qui étaient d'ailleurs. Parce que ça marche souvent comme ça, la recherche. D'abord, on trouve quelque chose qu'on ne comprend pas, et on se forme pour le comprendre. C'est comme ça qu'on avance. On n'a pas toujours l'enseignement ou la connaissance qui va nous permettre d'expliquer un objet, parce que parfois, l'objet qu'on trouve, nous, il est nouveau.
Et pour revenir sur les corps, sur les vestiges de corps, justement, il faut se dire aussi que jusqu'à une vingtaine d'années, je pense qu'il y a eu beaucoup de sacs, effectivement, de tessons de poterie qui sont partis dans des réserves, qui sont partis dans des caisses, sans qu'on se pose la question, qu'est-ce que c'est que ça? Et peut-être qu'un jour, il sera intéressant, justement, d'aller rouvrir peut-être des sacs ou des caisses où on trouve des vestiges anciens, mais il y a seulement des morceaux d'instruments qui...
Il faut bien penser quand même que 90% des tessons de poterie sur toutes les fouilles françaises ne sont pas travaillés. On ne travaille pas dessus, en fait. Ouais. Hein. Ils restent en caisse. Et il reste dans les réserves, effectivement. C'est actuellement le problème, où on n'a pas la capacité de pouvoir travailler dessus, faute de gens, faute d'argent, faute de temps.
Oui, et puis faute de coup d'œil aussi pendant longtemps, je
de
pense.
De coup d'œil aussi.
Parce que maintenant, je crois que quelqu'un comme Lionel, qui a l'habitude, bon, très vite, repère une pièce comme celle-là, mais il a fallu qu'il se forme, justement.
Il y a aussi que, lorsqu'on publie ça, les archéologues reprennent et maintenant, ils les reconnaissent. Mm-hmm. Parce que le but, ce n'est pas d'être obligé de s'occuper de tous les corps qu'on trouve en France, c'est de faire une publication qui permette aux gens de s'en occuper tout seul.
Oui. Au niveau des instruments avant, donc on parle des corps qui sont plus particulièrement dans les zones castrales. Ils sont en terre cuite, Vous parliez de la chasse, mais alors la chasse, on utilise des cors en terre cuite ou on utilise des cors en corne?
Il y en avait en corne. Le problème de la corne, c'est que c'est une matière périssable. C'est une matière qui disparaît.
Voilà, c'est ça.
Mais il est probable qu'on utilisait tout autant. À mon avis, même les guerriers qui montaient au combat ou les chasseurs ne prenaient pas des cors en céramique, qui est quand même assez fragile.
Dans l'iconographie, on arrive à les reconnaître. Parce qu'il y a certains cors qui sont cerclés. Et il n'y a pas de raison de cercler une poterie. Par contre, un instrument en corne, on a intérêt à le cercler pour qu'il n'éclate pas et pour qu'il soit bien conservé. Donc je pense, et souvent on a ça dans l'iconographie romane, il y a des anges. Et vous savez que les anges, il y a des classes d'anges. Hein. Il y a les anges de niveau supérieur et d'autres de niveau moins supérieur. Celui qui va à la chasse, au personnage qui va aller en enfer, souvent il sonne un cor lisse. À Vézelay, par exemple, on a deux anges qui sonnent deux cors différents. Celui qui sonne la chasse au démon, il va sonner un cor lisse, qu'on peut supposer être un cor en terre. Par contre, il y en a un autre qui a un cor hexagonal. C'est l'ange qui montre par quel endroit on ne doit pas passer, parce qu'il fait une croix comme un sentier comme un sentier de grande randonnée sur lequel il ne faut pas passer. Et celui-là, il sonne un cor qui est un cor avec des cerclages, qui est un cor en ivoire. Donc, comme je disais tout à l'heure, on prête corrige. Les anges de niveau supérieur sonnent des cors en ivoire, et celui qui va à la simple chasse sonne un cor en terre.
D'accord.
Et par contre, on a aussi le huchet à partir d'un certain temps.
Oui, c'est plutôt du 15e siècle. On va trouver effectivement des petits corps métalliques, bon, qui d'ailleurs sont toujours utilisés aujourd'hui pour les chasses à cours.
Alors, dans les livres de chasse, comme par exemple le livre de chasse de Gaston Phébus, on a les cornures, donc c'est le codage de ces sonneries qui ressemblent même presque à des bandes dessinées, puisqu'on voit une personne qui sonne du cor et il y a des petites cases blanches et noires qui indiquent les sons longs et les sons courts, parce que c'est un système de communication très très important. Alors, vous parliez de la chasse, effectivement, parce que là, on doit pouvoir sonner toutes les actions de chasse, hein. Il y en a au moins pour le Moyen-Âge, je crois, une quinzaine de répertoriés, et ça va continuer après avec les grands corps qu'on connaît, les grandes trompes. Mais on peut imaginer aussi que c'est un système qui est extrêmement répandu dans la civilisation médiévale, puisque dans certaines villes et villages, il fallait sonner des cornes et ces petites cornes toute la nuit en service de guet pour indiquer qu'on n'était pas endormi. Et donc, à toutes les heures, il fallait faire ces sonneries. Il y avait des sonneries différentes, des sonneries d'alerte, etc. Donc c'est vrai que c'est un instrument extrêmement répandu. Hein.
Par exemple, les heures civiles sont sonnées au cor très très longtemps. On commence à sonner les cloches, progressivement, les cloches civiles, l'Église autorise parfois à faire sonner les cloches en volée, mais il y a bien des textes comme quoi on doit sonner moins fort que celle de l'Église. Et puis les heures civiles commencent à être sonnées à partir du moment où on a des horloges. Et la première est à Rouen.
C'est une des premières, oui, mais effectivement, les horloges apparaissent fin 13e, 14e siècle surtout. C'est d'ailleurs le témoignage d'une cette véritable révolution industrielle que l'on a, qui commence à la fin du 12e et qui se prolonge pendant tout le 13e siècle, où on voit des objets de plus en plus complexes apparaître. Ça va être ces horloges, parfois avec des systèmes musicaux, effectivement. Ça va être également l'orgue qui va commencer, dans les grands orgues d'église qui peu à peu vont commencer à ne plus devenir des objets d'une rareté très peu courante. Du moins, dans toutes les grandes cathédrales, dans tous les grands lieux de culte, on va avoir ces orgues qui vont se dresser peu à peu, avec des tuyaux de plus en plus longs, qui eux aussi vont prendre des proportions parfois assez considérable. Finalement, la musique profite de tout ce développement technologique et on va avoir un instrumentarium complètement différent qui apparaît alors, et aussi une pratique musicale, bien sûr, qui va suivre.
L'orgue suit les évolutions technologiques lorsqu'on regarde l'histoire de l'orgue. Quand on voit pendant l'art roman, par exemple, ce qu'on peut appeler l'orgue roman, ce qui est un terme moderne, mais d'abord, il n'y a pas de soufflet. On voit que ce sont des outres sur lesquelles on monte pour appuyer dessus, et il n'y a pas de clavier. Il y a des tirettes sur lesquelles on tire pour faire ouvrir la soupape. Mais c'est un instrument évolué. Il ne faut pas s'imaginer que c'est un instrument primitif qui ne fonctionne pas. Il est parfaitement adapté à la musique du moment. Et ensuite, lorsqu'on commence à le faire évoluer, on invente le clavier. Mais le clavier, c'est une tirette qui permet d'ouvrir une soupape à distance. Mais d'abord, les premières, elles sont larges comme le poing. On tape dessus avec le poing, comme les carillonneurs le font aujourd'hui. Et ensuite, de plus en plus, on va le raccourcir et on va jouer sur des claviers de plus en plus petits qu'on peut faire fonctionner avec les doigts. Et on va inventer des soufflets. Et on voit dans de l'iconographie, les gens, et ça c'est décrit dans les textes, ils sont pendus à une barre et puis ils pédalent avec les pieds. Et dans les les enregistrements qu'on a fait pour un film qu'on a fait pour Luc Divine, on a été obligés, nous, d'actionner les soufflets. Parce que ce n'était pas automatique. Il fallait qu'il y ait des souffleurs. Mais souffleur, c'est un vrai métier. Lorsqu'on est guitariste comme moi et qu'on essaie de faire ça, on se rend vite compte qu'on n'y arrive pas. Il faut être au même rythme que le musicien. Alors petit à petit, il y a des poids. Nous, l'orgue sur lequel on a travaillé, qui est une reconstitution de Van Dyck, un tableau de Van Dyck qui était fait au Conservatoire de Lyon et joué par Christophe Deslignes. Le poids, lui, permet au soufflet quand même de retomber. Mais on peut lui donner des impulsions pour donner vie à la musique. Et c'est pareil pour l'organetto. L'organetto, qui est l'orgue miniature, il a un soufflet manuel. Un orgue, c'est comme un accordéon. On peut lui donner son expression. Et si on veut, on peut même l'écouter joué par Christophe Deslignes.
Ils ont mis combien de temps pour arriver à s'adapter à ces anciens instruments ?
Alors déjà, une chose assez curieuse, c'est quand même leur parcours. On a tendance à imaginer les musiciens médiévaux comme des gens formés en conservatoire et ont des parcours bien classiques, c'est-à-dire liés à une formation classique de la musique. Et on se rend compte qu'il y a quand même des personnalités assez curieuses. Hein, des gens qui ont été auparavant chanteurs de rock'n'roll, qui ont fait les premières parties de status quo à une époque, sont également percussionnistes et batteurs de jazz à leur temps perdu. On trouve vraiment des gens qui sont venus par intérêt pour cette musique-là et se sont adaptés, souvent avec des parcours un peu sinueux, parce que finalement, il y a très peu de formations qui débouchent sur une formation spécifique aux musiques médiévales. Alors maintenant, effectivement, il y a quand même des choses qui existent. Par exemple, il y a au Conservatoire de Lyon la possibilité de suivre des cours appropriés, propres à cette musique. Également, à Paris 4 Sorbonne, il y a un master professionnel plus consacré au chant, je pense. Mais c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de se former à ces musiques-là, interprétation.
Ce qu'il faut dire aussi, mais ça c'est Frédéric qui peut nous l'expliquer, la structure de la musique médiévale est complètement différente de celle d'aujourd'hui.
C'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai que c'est un monde très particulier dans la mesure où, prenons l'exemple de la modalité, puisque on parlait hors micro des chapiteaux de Cluny et des modes. Et en fait, les modes, comme le disait Lionel, c'est plutôt un climat, un ethos, c'est pas un système, j'allais dire, de théorie musicale qu'on apprend en solfège comme on a tendance à le faire aujourd'hui. Pour bien comprendre le système d'un mode, il faut beaucoup chanter dans le mode, j'allais dire pratiquement improviser des heures, etc., pour s'approprier le mode. Donc c'est vrai qu'il faut complètement revoir la formation des chanteurs. Je parle des chanteurs parce qu'on forme plutôt les chanteurs à Paris, parce qu'ils doivent apprendre à d'abord travailler sans support écrit. Et ça, pour un jeune qui est rentré à l'université en ayant tout appris au conservatoire, c'est difficile. Donc là, on rejoint ce que font les organistes quand ils savent improviser, les artistes de jazz, des musiques de grande diffusion, etc. Et donc, une fois qu'on s'est libéré un peu de ce que le texte peut apporter, à ce moment-là, le musicien a une très très grande liberté, parce que d'abord, il doit travailler sur le mode, après, il doit sentir le rythme, qui n'est pas toujours donné. Il doit sentir la vitesse qui finalement va être la plus appropriée à la mélodie. De même, comme on le disait tout à l'heure pour les instruments, le luthier, c'est lui qui a le dernier mot par rapport aux épaisseurs de bois, la tension des cordes et tout ça, pour se dire, voilà, j'ai trouvé à peu près la meilleure façon de faire sonner cet instrument. Et finalement, là, il faut qu'on arrive à montrer à l'interprète, voilà, je vais trouver par moi-même, avec tous les éléments de formation, la manière de mieux faire sonner cette musique. Parce que finalement, cette musique-là, ça a été aussi la grande aventure de la musique baroque pendant 25 ans, c'est qu'il faut trouver la clé pour qu'elle sonne bien pour le public d'aujourd'hui. Et donc là, il faut énormément se former, lire, j'allais dire même regarder les images. Hein. Parce qu'un étudiant qui regarde beaucoup les images, à un moment donné, il trouve des clés pour savoir avec quelle énergie il va pouvoir faire telle ou telle musique.
Je suis impressionnée. Je suis impressionnée. Mais il y a beaucoup d'étudiants qui sont intéressés par ce type de musique.
Alors oui, enfin maintenant, on a, je crois que comme l'a dit Christian, il y a un intérêt pour le Moyen-Âge qui est indéniable. On a des étudiants qui viennent de littérature, etc., qui sont intéressés. Mais évidemment, les gens ont l'impression qu'on peut y accéder facilement. C'était d'ailleurs assez vrai il y a quelques années. Maintenant, c'est vrai que ça se professionnalise. On a des modèles avec les disques, etc. Et c'est plus aussi facile. D'ailleurs, c'est un peu un regret pour moi, parce que très souvent, en France en tout cas, dès qu'on s'empare d'un répertoire et qu'il devient un peu académique, on supprime un peu le plaisir de faire la musique ensemble d'une manière plus spontanée et j'allais dire amateur. Et donc, c'est toujours un équilibre difficile, hein, un peu difficile à trouver. Donc, à partir du moment où on a des modèles par le disque, etc., bon, les gens, ils hésitent à prendre des gros mornes et à se dire, je vais essayer de jouer, etc. Alors que ça devrait être comme de la musique traditionnelle, quoi. Je veux dire, on devrait pouvoir jouer ça très simplement, facilement, j'allais dire presque un dimanche, faire danser les copains et les copines, voilà. Voilà. Donc ça, c'est pas facile, hein. Évidemment, c'est à l'université, c'est difficile de donner ce modèle-là, mais on devrait avoir des structures associatives, un petit peu ce que font finalement facilement les Bretons, même si on peut parler beaucoup de leur répertoire et de l'origine du répertoire, etc. Il y a beaucoup de choses à dire. Moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est quand même d'arriver dans des fêtes où on voit les gens danser, jouer, etc., sans complexe, avec des musiques dont les origines, après, voilà.
Mais en Espagne, on est étonné par la richesse de la musique traditionnelle.
Oui,
la musique espagnole, c'est pas du tout uniquement le flamenco. Je veux dire, chez eux, ils ont des chants de travail, ils ont des chants. Chaque région a conservé ses instruments, des styles et tout ça. Mais par contre, quand on parle de la musique médiévale, faut quand même se rendre compte qu'entre le 11e siècle et le 15e, c'est totalement différent. Et c'est différent à différents niveaux, parce qu'on a les professionnels, mais on conserve aussi sans doute les jongleurs, les amateurs, qui continuent à faire ce qu'on appelle la musique traditionnelle.
Et puis même la notion de professionnel, c'est ce que disait Christian, il y avait un peu de tout. C'est-à-dire, en fait, on apprend en famille, c'est de père en fils. Il y avait aussi une chose intéressante que je voulais ajouter, c'est que généralement, l'instrumentiste va exiger de l'instrument et du luthier que ce soit adapté à sa main, etc., etc. Il bricole son instrument pour que ce soit le plus facile pour lui pour devenir brillant et virtuose. On voit ça encore en Roumanie, etc. Alors qu'aujourd'hui, quelqu'un qui veut faire de la flûte traversière, ben voilà, il en achète une dans le commerce et c'est à lui de s'adapter, même si c'est un peu moins facile pour lui pour être virtuose. Donc on voit bien les transformations. Donc les gens ont leur instrument, souvent ils le fabriquaient, et puis il y a tous les niveaux, quoi. Il y a tous les niveaux pour jouer cette musique.
On tire des grosses leçons de toute façon en s'intéressant à ces musiques dans les Balkans, dans les montagnes espagnoles. C'est vrai que l'ethnomusicologie, c'est quand même une piste pour aborder ces musiques médiévales.
Patrick Kersalé, qui est ethnomusicologue et qui a fait le film qu'on a fait sur le Moyen-Âge, à un moment, je lui demande, mais on avait parlé de l'accord. Et pour écrire dans le livre, je lui demande de me formuler ça. Et il me dit, un peu partout dans le monde, on s'accorde sur la voix ou sur l'instrument à son fixe. Tel qu'en Afrique, le balafon. Voilà. Il n'y a pas de diapason immuable. Et moi, je me suis rendu compte quand même dans l'iconographie qu'il y a des musiciens qui ont des vielles à archer plus grandes que d'autres. Mais je pense qu'il y en a qui voulaient des instruments plus graves que d'autres pour que ça s'adapte à leur voix.
Jacques, tu as une question à poser.
Oui, je posais à Lionel la question des musiciens des chapiteaux de Cluny. Je lui demandais ces chapiteaux nous apportaient aujourd'hui encore quelque chose en termes de connaissances.
Alors, ils sont particuliers, les chapiteaux de Cluny, parce que c'est d'abord la seule source iconographique pour l'art roman, où on a les 8 modes représentés. Hein. Les modes, on va dire, de façon plus simple qu'à ce qu'a expliqué Frédéric, c'est les touches blanches du piano. Hein. On part de ré, mi, fa, ensuite c'est comme si vous partiez de mi, fa, vous avez tout de suite un demi-ton, avec autante plagale, c'est-à-dire celui qui part de ré qui monte sa gamme, et celui qui utilise un peu des notes en dessous. On appelle ça authentique plagale oblique. À Cluny, il a représenté un personnage de face, un personnage de profil. Donc le mode plagal, le mode oblique de côté. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? On a autour d'une mandorle une inscription. Et on se rend compte que le commanditaire a donné au sculpteur la théorie musicale. Et lorsqu'on regarde dans la bibliothèque, on trouve le livre de Guy d'Arezzo, hein, qui est le livre le plus courant dans la bibliothèque, et les psaumes de saint Augustin, qui sont la base de la symbolique médiévale. Et lorsqu'ils ont besoin de symbolique, ils vont voir chez saint Augustin ce que lui avait comme symbolique. Et par exemple, si on prend le quatrième ton, c'est écrit « Lorsque tu entends le quatrième, tu entends le chant des morts ». Il a représenté ça avec un personnage qui promène un carillon, c'est un bâton sur lequel il y a des cloches, à travers le monastère. Le quatrième chant, le chant des morts, le Kilazarum, est en quatrième ton. Et dans le coutumier de Cluny, on lit « Lorsqu'un moine meurt, tu promèneras le tintinnabulum des morts à travers tout le monastère. » Moi, je vous raconte ça comme ça, j'ai mis 3 ans à le trouver. Voilà. Mais sur tous les tons, c'est comme ça. Le premier commence les harmonies musicales, c'est un homme. Suit son second comme la femme suit l'homme. Quoi. Voilà. Tout est comme ça. Et ils ont représenté, ils ont personnifié les tons de la musique. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y en a 2 qui sont cassés. Et là, on se sent bien petit, parce qu'on se dit, si moi, le commanditaire m'avait dit, le sixième s'incline légèrement lorsque tu l'entends, comment je l'aurais représenté? J'ai aucune idée.
Merci Lionel, merci à tous, ça a été passionnant. Et alors, vous avez sorti diverses publications.
Alors, la publication la plus récente, c'est donc un projet qu'on a mené pendant toute l'année 2008 avec les éditions Luc Divine. Des éditions qui sont bien connues des enseignants en éducation musicale et qui est consacrée justement aux instruments et musiques du Moyen-Âge. Alors d'une part, il y a 2 DVD qui regroupent près de 5 heures de films où l'on voit des musiciens en action, où l'on voit des explications sur la fabrication des instruments, où l'on voit également tout un aspect un peu théorique sur l'accès aux sources. En complément, il y a également un livre avec 2 CD audio qui reprend un peu la même démarche. Et ce livre, bon, s'intéresse d'une part aux instruments de musique. Enfin, il met en relation, en fait, la musique avec les différentes phases historiques du Moyen-Âge. Et puis, il y a, en complément, un matériel d'exposition, qu'on appelle le Medieval Kit, où il y a 12 affiches, 12 posters, présentant les familles instrumentales, mais également une évocation du chant et de la danse au Moyen-Âge. Ce matériel d'exposition est complété par un DVD, où également il y a 2 heures de séquences vidéo, où l'on voit les musiciens en action.
Très bien, donc c'est sorti chez...
aux éditions Luc Divine.
On peut les acheter à quel endroit?
Il faut passer par le site internet de Luc Divine, c'est le plus simple. Soit on trouve Luc Divine directement, soit on passe par le site APMUTAM, qui est le site de notre groupe de recherche. Voilà. Ça veut dire Association pour l'étude de la musique et des techniques dans l'art médiéval.
Très bien, je remercie beaucoup Frédéric d'être venu, merci. Je remercie également Lionel, Christian, j'espère vous revoir très bientôt. Et puis je remercie Jacques d'avoir fait œuvre de Candide. Merci, bonsoir, autre radio, autre culture, à bientôt. Autre radio, autre culture.